discerner les pouvoirs enfouis dans les ténèbres lorsqu'ils sont au service.
Bonsoir, il est 22h, comme tous les dimanches, c'est La Causerie. Et ce soir, nous sommes en présence de Philippe Deschemins, qui est un auteur, mais pas que. Et comme à chaque fois qu'on a un ou une invitée, eh ben c'est elle ou lui qui choisit la musique. Donc, on y va.
Ça, c'est une belle entrée pour La Causerie. Alors, dimanche 22-23, La Causerie, on va d'abord commencer, avant que je vous présente tous ceux qui sont autour de la table, par présenter nos plus... Je suis mal parti.
Apporter notre soutien.
Voilà, notre soutien à notre compagnon de radio qui est aujourd'hui soumis à un contrôle judiciaire suite à une mauvaise blague sur notre antenne. À croire que la police a aussi peu d'humour que les curés et du coup, à chaque fois, ils nous tombent dessus pour des conneries. Donc, courage à toi et puis on sera là avec toi tant qu'il le faudra. Et donc, c'est La Causerie et autour de la table, on a la technique Clara.
Bonsoir.
Qui n'a pas de bonnette, mais ça marche quand même, t'as vu.
Ça, oui.
On a Jean-Yves qui est là aussi.
Bonsoir. Fab, voilà. Évidemment. Et Philippe Deschemins.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, si vous voulez réagir à l'émission, c'est comme d'habitude, lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com, tout attaché en miniature, minuscule, c'est mieux. Sinon, il y a le blog sur blogs.radiocanu.org/lacauserie, je vais y arriver ce soir, c'est dur. Et voilà, et on va démarrer parce qu'une émission dense nous attend.
Tout à fait. Alors, on va revenir à peut-être... Après, une petite présentation, je pense que tu peux présenter un peu ton parcours, Philippe, avant d'en arriver à le livre oui. que tu as écrit, l'écriture, je ne sais pas, tu as commencé...
Qui tu es, tout ça
Ben, je suis Philippe Deschemins, j'habite à Lyon, donc ça tout le monde le sait.
Toutes les infos, fais gaffe. Ouais.
Je suis musicien, donc là on vient d'écouter d'ailleurs un titre de mon groupe, qui s'appelle No Dominion, enfin le titre s'appelle No Dominion et le groupe Born. Voilà, en gros, hein, on va dire dans les grandes lignes. Et en effet, j'ai publié un roman qui s'appelle Contoyen, et qui est paru, si mes souvenirs sont bons, maintenant il y a 2 ans, je crois, dans ces eaux-là.
J'avais cru il y a un an et demi. Mais on est pas loin d'être.
Mais ouais, voilà, on va dire ça. Okay. On va dire ça.
On voit jamais grandir ses enfants.
C'est ça passe trop vite, justement, c'est pour ça.
Et donc, du coup, contoyen, c'est bizarre comme mot, ça, contoyen. D'où nous vient cette.
Alors, c'est un mot que j'ai inventé.
Ouais.
Pour désigner, on va dire, les gens que l'on suit. Dans ce roman, qui s'appelle Les Contoyens, qui vivent dans une zone que j'ai nommée Contoyenne. Donc c'est un roman d'anticipation, qui se passe dans un futur proche, qui n'est pas daté, on suit les aventures d'un petit bonhomme, en fait, qui s'appelle Dimitri, et qui évolue dans cette zone contoyenne, qui a la particularité de, on va dire, l'activité des gens qui y vivent est tournée autour du loisir et de la consommation. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'insécurité, ça peut paraître à peu près idyllique, et tous les habitants de la zone contoyenne reçoivent une allocation mensuelle, et leur devoir, leur rôle social, c'est de consommer l'intégralité de cet argent en s'achetant
tout et n'importe quoi.
Voilà. Et ce jeune Dimitri rencontre un jour un gars par quasi inadvertance et en fait découvre, on va dire, la face cachée de ce monde, et il se rend compte que loin, très loin de chez eux, il existe des gens qui sont, on va dire, à tout l'opposé de ce que eux font, c'est-à-dire que ces gens-là sont asservis au travail, ne font que travailler dans des conditions proches de l'esclavage, et eux s'appellent les protoyens. Donc, en fait, le terme contoyen vient de consommateur citoyen, que j'ai condensé, et le protoyen vient de producteur citoyen, donc ça devient protoyen. Et donc, du coup, Dimitri, dans un élan, on va dire, un petit peu de un peu romantique, de vouloir sauver le monde, de face à tant d'injustices, de ces gens qui n'ont comme horizon que la mort et le travail et la sueur, eh bien, il décide dans sa tête, au préalable, de détruire la planète, en fait, en se disant que dans la balance du bien et du mal, le mal avait pris tellement de place que du coup, voilà, donc il rencontre d'autres personnes et puis il s'engage dans une forme de rébellion. Voilà, c'est un roman d'aventure, un petit peu, on va dire, poétique ou romantique, dans l'approche qu'a Dimitri de son engagement. Et derrière, ben, j'essaie de faire passer quelques idées autour de la société de consommation, du consumérisme, du capitalisme, voilà.
De la surveillance aussi, un petit peu.
Oui.
Hein,
oui.
Parce qu'elle est toujours là, mais je sais pas, je trouve qu'elle est peut-être moins voyante, en fait. Elle est en filigrane constant, alors, oui, ouais, c'est ça.
Exactement. Ce qui m'intéressait, c'était d'aborder la société dans le contrôle qu'elle a des individus, de manière un petit peu moins, je vais dire, adolescente, un peu moins naïve, que de s'imaginer que que l'on fait ce que l'État attend de nous que lorsqu'il nous met un coup de trick. Et en fait, je trouvais que on va dire la vision que l'on a des dystopies était un petit peu trop orwellienne dans le sens de 84, alors qu'en fait depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on est rentré de plein fouet dans la société de consommation, en fait l'endoctrinement est passé par je trouve pas forcément le terme là, mais ça va être un petit peu plus mou. On va essayer de nous faire faire les choses de manière un petit peu différente, puisqu'on est en démocratie, que la démocratie c'est le bien. Donc du coup on va pas nous mettre des coups de trique, même si de temps en temps quand il y a une petite manifestation, les CRS ils font leur taf, ils tapent dessus, c'est
ça,
normal.
Ça fait un fond de violence qui reste comme ça présent.
Oui, voilà, parce que au bout d'un moment, quand on ne fait pas ce que l'État attend de nous, du coup l'État se raidit en fait, et il montre entre guillemets sa véritable nature, qui est une instance d'oppression. Et du coup voilà, je voulais mettre ça en parallèle, c'est-à-dire d'un côté l'Occident où on vit dans de bonnes conditions, où on fait ce qu'on attend de nous par docilité, parce qu'on est endoctriné pendant 16 années obligatoires, j'exagère un peu le truc, mais pendant l'école c'est 16 ans obligatoires d'endoctrinement, où du coup tu crées des gens qui sont extrêmement dociles, etc. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle L'Encerclement, d'ailleurs, qui explique un petit peu comment on endoctrine dans l'école les gens justement à la doctrine ultralibérale. Et l'idée c'était de mettre en perspective et en parallèle le monde d'avant, qui est toujours celui, on va dire, des pays non occidentaux. C'est-à-dire, si t'es pas contente, mets un coup de trique et on va pas se cacher. Mmh. Et chez nous, on va dire, où il y a cet encerclement constant avec la télévision, la publicité, l'école. Si tu vas pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Toutes ces choses, on va dire, qui sont constantes, et c'est ce que je présente dans Contoyen, où justement Dimitri nous explique un petit peu, des fois quand ils mangent par exemple, ils ont des pubs qui leur expliquent comment ils doivent faire, etc. pour être un bon Contoyen, pour dépenser l'intégralité de son argent. Donc voilà, en effet il y avait de ça.
Et parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui te comparent à Orwell, j'ai vu sur les critiques,
côté dystopique, voilà.
Mais par contre ce qui est intéressant, c'est que comme Orwell, en fait, tu pars de la situation actuelle. Oui. Orwell partait de sa situation époque. Toi, tu pars de celle d'aujourd'hui et tu forces le trait, comme on dit dans une dystopie, au sens négatif, pour diront certains.
Complètement.
Moi, je suis pas persuadé que ce soit si négatif que ça. Je crois que c'est plutôt lucide, mais bon, c'est un autre problème. Et là où moi j'ai trouvé intéressant vraiment ton livre, c'est que en plus, on ne s'y ennuie pas parce que tu annonces pas. C'est-à-dire que comme c'est un livre d'aventure, en plus il y a le côté on suit un héros, et enfin voilà, je voulais redire aux gens qui nous écoutent qu'on n'est pas en train de parler d'une thèse de 400 pages, et que c'est vraiment tout ça passe à travers la vie de Dimitri, le héros qu'on suit, et ses rencontres, ses dialogues, ces dialogues intérieurs aussi, et que c'est pas une thèse, quoi.
Il y a même des gens qui m'ont écrit en me disant qu'ils n'avaient pas vu tout ce que j'explique là, en fait. Pour eux, ils l'ont pris comme un roman d'aventure dans un monde un petit peu étrange, un peu futuriste, voilà. Mais ouais, on peut, je pense, passer à côté et on peut le lire à différents niveaux.
Il y a eu un blanc, parce que je sais pas pourquoi tu te retournais.
Je sais pas ce qui s'est passé. C'était joli en tout cas.
C'était beau, ça faisait un point comme ça. Non, moi je voulais juste, avant qu'on fasse une deuxième coupure musicale, qui ont été tes auteurs de prédilection qui t'ont amené en fait à pousser ta réflexion personnelle et à donner l'envie d'écrire, justement.
Alors, il y en a plusieurs. On va dire qu'il va y avoir les auteurs de fiction, que j'aime beaucoup. Ça c'est très vaste, je suis un grand fan de Don DeLillo par exemple, pour parler de gens qui sont encore vivants. Je trouve que c'est certainement le plus grand styliste actuel. Chuck Palahniuk, j'aime beaucoup Philip K. Dick, puis des grands classiques de Sade, en passant par Maupassant ou Flaubert. Donc je lis beaucoup et beaucoup de choses qui sont assez différentes, mais on me dit Kadic, Sartre, j'aime beaucoup les écrits, les pièces de théâtre, j'écoute pas mal de choses. Et puis il y a tout, on va dire, toute la nourriture idéologique qui est Marx, Rousseau, La Boétie, Montaigne, Orwell aussi. J'aime beaucoup Orwell, pas seulement qu'écrivain de fiction. Debord, c'est un truc que je peux lire et relire et relire et relire sans fin. Rousseau, pour moi le plus grand d'entre tous.
Comme ça donne un peu un panel de tout ce que vous retrouverez condensé dans le livre.
J'espère.
J'espère. Je le dis. On se fait deux petites coupures musicales. Est-ce qu'on t'avait prévenu assez avant cette fois-ci ?
J'avais suivi là.
Ah, c'est cool. C'est cool alors.
Vous êtes de retour à la causerie comme tous les dimanches sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org, partout ailleurs. On vient de s'écouter une reprise encore par ce groupe Porn,
oui, c'est ça.
Qui est ton groupe.
Oui.
Et c'était donc Call Me. Et pour continuer autour du livre, il y a justement donc tous ces comptoyens qui reçoivent une allocation mensuelle. Quand on lit et qu'on est un petit peu curieux de ce qui se passe dans ce qui serait soi-disant des idées progressistes, eh ben tiens, on se dit, tiens, ça rappelle un petit peu ce revenu universel qui finalement aujourd'hui est porté
par tout le monde.
Par tout le monde.
Par des gens aux idées apparemment opposées, et ils s'accordent tous, on va dire, à plébisciter cette chose. Oui, donc tous les comptoyens ont leur petite allocation, et le but, c'est de dépenser l'intégralité, ni trop, ni pas assez en fait. Il faut vraiment qu'ils arrivent à zéro, ils ont même un petit planificateur qui leur explique au cas où ils sont un peu perdus, comment ils vont pouvoir faire leurs emplettes du mois. Le roman, j'ai commencé à l'écrire en 2011, quand j'étais en train d'enregistrer le deuxième album de Porn. Et cette idée m'est venue, on va dire, assez naturellement, parce que, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je trouvais que les visions très orwelliennes avec cette dictature qui est méchante, qui vous tape dessus, qui vous enlève vos libertés, etc., elle était très très loin de notre réalité. Aujourd'hui, si la liberté va dans le sens du libéralisme et de la consommation, tout le monde est à peu près d'accord. Hein. C'est la seule chose vraiment qui permet de voir si vous faites ce que le pouvoir attend de vous. C'est tant que vous allez dans le sens de la consommation, etc. Tout va bien. Et du coup, je sais même pas si à l'époque j'avais entendu parler du revenu universel. Hein. Vraiment en 2011, je pense pas que
c'était pas tellement à la mode.
Non,
encore,
c'était pas tant à la mode. Et du coup, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que l'État attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? je me suis rendu compte que, par exemple, tous ceux qui brandissent des trucs de grève générale, etc., ça fait pas trembler grand monde. Au pire, s'ils font leur grève générale, eh ben, ils diront « Ok, pas de grave, on délocalise l'usine, on va la mettre au Burkina Faso, ou je ne sais pas trop où, ou n'importe où. » C'est pas vraiment ce qui va faire trembler le pouvoir. Hein. Au contraire, je pense même qu'ils aimeraient bien, comme ça, du coup, ils enlèveraient toutes les usines et ils feraient produire leur merde très très loin et qui en payant les gens une misère. Et du coup, je me suis dit, par contre, tiens, c'est bizarre, mais si tu boycottes, tout de suite, t'as la police qui débarque, tout le monde se dit non, non, surtout pas, le boycott est interdit. D'ailleurs, je crois que le boycott est interdit.
Interdit en France. Ouais.
La grève est autorisée, le boycott est interdit. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même un petit peu bizarre, ces temples de la consommation. Donc je me suis intéressé au PIB, les pays occidentaux. Je me suis rendu compte que la part liée à la consommation, c'était quasiment 75-80%.
C'est énorme hein, quand même.
C'est juste énorme. Parce que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de prêt. Tout est lié à cela, en fait. Par exemple, quand on dit que la croissance va augmenter, c'est parce qu'il y a des commandes qui sont effectuées, parce qu'il y a des magasins qui s'ouvrent sur de l'argent qui n'est toujours pas rentré, mais c'est prévisionnel. Donc, du coup, toute notre économie était vraiment orientée vers la consommation. Si bien qu'il y a des minima sociaux. Les minima sociaux, comme la théorie des salaires efficients de Keynes, le SMIC, c'est pas pour nous faire plaisir. Si on n'est pas assez payé, la machine s'effondre, en fait.
Parce qu'on ne consomme pas assez.
Exactement.
Du coup, on fait s'effondrer le PIB.
Exactement. Voilà. Et si on fait effondrer le PIB, la Banque de France, enfin l'équivalent, ceux qui notent les AAA, etc., on le perd, etc. Enfin, ça a beaucoup, beaucoup d'incidences. Si bien que l'État fait quasiment tout ce qu'il peut pour faire en sorte que la machine de la consommation ne s'arrête pas, jusqu'à nous donner de l'argent pour que l'on consomme. C'est-à-dire que, grosso modo, ils vont prendre de l'argent sur... Au lieu de le mettre dans les hôpitaux, au lieu de le mettre dans l'éducation nationale, au lieu de le mettre, on va dire, dans des choses qui sont importantes, ils nous les reversent pour que nous les reversions ensuite aux entreprises, aux multinationales. C'est ni plus ni moins que ça, ce qui se passe. Donc du coup, voilà, j'ai imaginé ce monde autour de ce revenu universel, on va dire, qui tiendrait la zone comptoyenne avec des gens qui sont endoctrinés à acheter, à bien consommer, être un bon consommateur. Voilà, l'idée, elle était vraiment née de cela, de mes constats à propos de notre système économique actuel. Parce que comme j'ai pu vous le dire auparavant, pour justement, moi, le capitalisme n'existe pas en Occident. Il est mort il y a bien, bien longtemps en tant que mode de production. Parce qu'après, il y a des gens qui me disent « Oui, mais en tant que mode de production, c'est-à-dire de création de richesse. Ce que les gens appellent capitalistes ne s'enrichissent pas, ici, sur le dos des salariés. Parce que les salariés de ce qu'on achète ne sont pas ici. En France, on n'a que du service. »
En forçant le trait.
Oui, je force le trait, bien sûr.
Je le précise. Ouais,
c'est comme en sociologie, on parle de
grands ensembles.
Voilà, on parle de grands ensembles. Mais par contre, ce qui est le moteur de la croissance et de l'économie en Occident, c'est la consommation. Ce que moi j'appelle le consumérisme en tant que mode de production. Et ça nous ramène à, pour moi, l'avènement du consumérisme. C'est la crise de 29, qui est une crise de surproduction, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop de biens qui ont été produits et personne pour les acheter. Et on voit ces fameuses scènes à l'époque où les mecs, en fait, ils brûlaient les stocks, parce qu'en fait, tu produis, sur le dos des salariés à l'époque, mais t'as personne à qui leur vendre. Donc du coup, fallait bien créer une classe sociale de gens qui achètent, ce qu'on appelle la classe moyenne. Avant, il n'y avait pas de classe moyenne. Et Ford qui disait, mais moi, il faut que je paye bien mes salariés pour qu'ils m'achètent une voiture. Et ça a été le fondement vraiment en mon sens, de la fin du capitalisme. Comme mode de production tel que Marx l'a vécu, tel que les Canus l'ont vécu. Toute cette période-là, où il y avait vraiment un rapport de force direct de classe sociale avec le propriétaire des moyens de production et le prolétaire, qui lui n'a que sa force de production à vendre. Aujourd'hui, c'est pas avec ça qu'ils se font de l'argent. Les plus grandes sociétés du CAC 40, vous les matez, elles n'ont pas de salariés. Google n'a quasi pas de salariés, comparé à ces grandes et multinationales d'avant, Amazon. Ils vendent soit du service. Après, Facebook, toutes ces grandes entreprises qui fleurissent en Occident, elles ne sont plus sur un modèle capitaliste. Elles ne gagnent pas leur argent en exploitant le travailleur. mais en nous vendant des merdes, toute la journée, toute la journée. Voilà, c'était ça que je voulais mettre en perspective vraiment dans Comptoyen et dans ma vision du monde tel que je le vois aujourd'hui, au regard de ce que je peux avoir comme fait, que ce soit des faits d'organisation sociale ou des faits de données économiques pures.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, je vais aller dans ton sens, c'est qu'on voit par exemple que les produits manufacturiers se déplacent vers ce qu'on appelait les pays en développement.
Oui.
C'est le cas d'ArcelorMittal.
Oui.
Le rachat par Mittal de la sidérurgie, c'est parce qu'en fait, la sidérurgie, elle se déplace vers des pays où on met ce que dans ton livre, tu appellerais des pro-toyens.
Exactement.
C'est-à-dire des gens qui vont travailler que. Voilà.
Alors, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une optimisation de la chaîne de travail globale telle que Taylor l'avait inventée
au début. En fait.
C'est-à-dire que. Il y a quelques années, j'avais participé à une conférence sur le capitalisme où, en fait, Nicolas Bavrez, je vous avais raconté, Nicolas Bavrez était là, il y avait Bernard Maris, feu Bernard Maris, et Bavrez nous disait qu'il avait participé.
On peut peut-être juste resituer qui est ce monsieur.
Bavrez ?
Oui.
C'est un avocat, historien, enfin, il a à peu près tout, mais de droite.
Oui, c'est juste parce que...
Très à droite.
Voilà, très à droite. Je crois qu'il bosse au Point ou à l'Express, un de ces deux, mais c'est à peu près la même chose. Et du coup, il nous disait qu'il a fait partie d'un petit comité qui était payé par les banques. Donc le mec, il te dit ça. Il y avait plein de monde. On était deux ou 300. Et pour faire pression auprès du gouvernement. Donc à l'époque, Sarkozy était ministre de l'économie. C'était en 2004. Et du coup, il nous disait on avait réussi puisque ça s'est traduit chez Sarkozy par la phrase « Je veux une France de propriétaires ». Et lui, son boulot avec les autres gars, c'était de faire en sorte que l'État nous endoctrine à faire des prêts. Voilà. Et du coup, moi je m'étais dit, mais tiens, mais c'est marrant, parce que toute la journée, on nous balance des signaux contradictoires. On nous dit, travaille, travaille, mais achète, achète. Mais sur une journée de 24 heures, c'est très compliqué de faire les deux très très bien. Et ben finalement, j'ai imaginé, donc dans Comptoyen, on va diviser les classes sociales. Et si vous regardez bien, les Comptoyens, les Protoyens, qu'est-ce que c'est, si ce n'est un saut qualitatif du féodalisme jusqu'à aujourd'hui ? À l'époque féodale, les gens la classe nobiliaire ne travaillait pas. Mmh. Elle jouissait de biens par-ci par-là, et il y avait des serfs qui travaillaient pour eux. Et quelque part, pour moi, le capitalisme, c'est un stade transitoire vers un stade de perfectionnement au niveau de l'organisation sociale, qui est d'un côté une classe qui, elle, va faire que jouir et s'acheter des trucs avec de l'argent qui n'existe pas, et d'autres personnes qui seront acculées au travail en tant que labeur et comme seul horizon de vie.
Voilà. Pardon, je...
tu étais plus là.
Oui, non, j'écoute, j'intègre toutes ces infos. Est-ce qu'on se fait une coupure, vous voulez faire une petite coupure ou pas, en fait ?
Moi, j'avais juste une question avant, justement. Parce que je ne voudrais pas la perdre.
Ouais. Oui.
En fait, c'est ce qui est intéressant dans ton livre aussi, c'est le côté presque charnel qui est dans la consommation, c'est-à-dire le côté libidinal quasiment, ouais. que tu as mis. Et est-ce que pour toi c'est vraiment, enfin c'est pour moi c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, je le dis clairement. Je trouve que de plus en plus les gens ont une espèce de bonheur par la consommation. On voit les gens qui font la queue pour acheter un iPhone, tu dis il y a un problème, quoi. Et en fait, dans ton livre, tu le fais vachement ressortir, mais tu le fais aussi ressortir par le côté messagerie, enfin message à peu près pas subliminal, en fait, très direct, qui leur sont envoyés. Ça va te rendre heureux, ça va t'optimiser. Et pour toi, le monde d'aujourd'hui, ça se traduit comment ? Chez nous, c'est la pub, c'est la propagande.
La pub en soi, c'est comme la télévision. C'est pas elle le problème.
C'est ce qu'on en fait en fait.
Publicité, ça veut juste dire publication en quelque sorte. Le problème, en mon sens, c'est le fétichisme de la marchandise. Et les hommes sont, les hommes au sens large, hein, les humains sont très sensibles au désir mimétique. Et quelque part, ça me rappelle aussi Malaise dans la civilisation de Freud, où il essaie de comprendre pourquoi en fait ça chie. Pourquoi on est malheureux. Quelque part, on est malheureux parce qu'on est hors de l'état naturel. Donc notre société, qui est bâtie sur la propriété privée, elle nous a sortis d'un état naturel, que je ne connais pas particulièrement et que peu de personnes connaissent, puisqu'il y a très peu y a pas d'écrit de cette époque-là pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est aliéné. On est, pour prendre le terme, vraiment le pur terme, je crois que c'était Lukács, on est aliéné au sens où on est hors de nous-mêmes. Comme alien, c'est l'étranger.
Ouais.
Donc, du coup, ce malaise, il faut le combler. Et comme on est dans une société extrêmement pyramidale, avec du mépris de classe à chaque classe sociale, quelque part, c'est un petit peu une forme de réussite sociale, même si ce n'en est pas une, et ça nous permet de vivre dans une projection de la réalité et de classe qui n'est pas la réalité. Donc du coup, il y a ce côté extrêmement libidinal que l'on retrouve chez Kluskar, c'est là où je l'ai lu, avec ce côté quasi sexuel en fait de l'achat. Quand on regarde la télévision, quand on regarde donc la télévision, pas que les pubs. Moi, ce qui est le plus je trouve le plus hallucinant, ce sont les émissions de télé-réalité. Avec ce culte du narcissisme, ce moi surpuissant, de la nouvelle star, le meilleur chef, ou je sais pas quoi, moi j'ai pas la télé.
Toujours le quelque chose, voilà. La quelque chose.
Et nous, on se projette là-dedans, et c'est pour moi une des raisons pour laquelle il n'y aura pas de révolution demain, c'est qu'il n'y a pas de conscience de classe. Puisqu'on vit, grâce à la publicité, à ce fétichisme marchand, dans une projection de la réalité qui n'est pas la nôtre. Quand je vois des gens qui sont au SMIC ou au RSA, qui vivent avec dans des conditions qui sont absolument indécentes, soutenir des gens qui eux sont dans une classe sociale mais on va dire quatre étages au-dessus, je dis putain les gars, vous êtes sûr que vous êtes bien entouré des bonnes personnes, parce que le mec toute sa journée il se rit de toi quoi. Tu vois, et ce monde factice qui est expliqué aussi dans la société du spectacle fait qu'il n'y a pas de conscience de classe et il n'y a pas de possibilité de toucher le réel. Mais voilà, quelque part, si ça fonctionne, c'est que un peu comme les virus, ou on va dire comme la morphine ou le cannabis ou autre, c'est qu'on a en nous des récepteurs pour cela. Et quelque part, ce mal-être, eh ben, il est comblé par ces petits plaisirs, parce que même moi, ça m'arrive, je m'achète un truc et ça me fait plaisir, je suis content. Mais je pense que du coup, il faut se poser la question de savoir pourquoi ça fonctionne. Pourquoi en fait ? Quel est le mal-être ? Quel est le malencontre, comme dirait la Boétie, qui fait qu'on soit si corruptible ? Parce que c'est de la corruption, ni plus ni moins. C'est, tiens, prends ça, et puis tu seras content, et pendant ce temps-là, bah, tu auras de l'autre côté, et tu ne t'intéresses pas au fait qu'on est tous dans la même merde, tous ensemble, et qu'il n'y a pas de possibilité de création de on va dire de volonté commune.
Eh ben merci, ça c'était une réponse parfaite. Une petite coupure musicale, troisième titre, c'est parti.
Hey!
De retour dans la causerie dimanche 22-23h sur Radio Canu ou radiocanu.org. Et donc, c'était un titre de nouveau d'un groupe que tu ne connais pas du tout, Philippe, qui s'appelle Porn, et qui était, donc c'était Love Like War, c'est
exactement,
ça, je
ne dis
pas de bêtises. Donc on continue à parler, enfin, autour de ton livre Contoyen. Et alors moi, il y a quelque chose dans le livre qui m'intéressait, c'est que tu passes des idées que tu portes finalement dans la vie, tu les as mis dans ton livre. Et en fouillant un petit peu les différentes critiques que j'ai pu trouver sur ton livre, alors il y en a qui sont pas très très sympas, d'autres qui sont très sympas.
J'en ai lu aucune.
Ah bah c'est bien, ne les lis pas.
Ouais.
Non mais il y a des gens qui te reprochaient d'être plébéiste. Alors c'est bien, parce que du coup, comme c'est un mot derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, parce qu'à priori si tu l'as prononcé malheureusement une fois ou deux, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière ce mot-là ? Comme ça, ça clarifiera les choses.
C'est un mot que j'ai inventé aussi. Parce que j'essayais de, on va dire, je faisais le truc inverse, en fait, qui souvent se fait. C'est-à-dire que tu choisis d'abord ce que tu veux être, et ensuite tu te conformes à ça. Par exemple, je veux être communiste, ou je veux être du Front National, ou je veux être socialiste. Donc tu te dis ça, c'est ce qui se fait souvent. Et puis ensuite, tu essaies de rentrer dans le moule de cette chose-là. Et moi, j'ai essayé de faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu voudrais, comment s'articule ta pensée, etc. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui y rentrait, en fait. Je me suis rendu compte que, par rapport aux études que j'avais fait, quand je dis études, là, c'était recherche, philosophie ou en histoire, qui permettait de trouver des courants qui se rapprochaient de ce que je pensais, de ce que je voulais, on va dire, comme organisation sociale, mais il n'y avait rien. J'étais toujours confronté à un truc où je me disais, non, ça passe pas, là. Ça je ne suis pas super d'accord avec, ça ne me convient pas. Moi, il y avait des choses, on va dire, sur lesquelles je suis à peu près intransigeant, c'est la disparition des classes sociales, c'est l'abolition le dépérissement de l'État, l'absence de propriété privée pour, on va dire, de la propriété commune, de l'intérêt général, moins d'individualisme. Et du coup, je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui rentrait là-dedans, ou certains courants anarchistes, à l'époque, mais plus aujourd'hui. Donc du coup, je me suis dit, tiens, mais voilà, je vais essayer de théoriser un petit peu tout ça, tout ce que je pense. Et je me suis dit, il faut bien que je l'appelle un peu faut que je trouve un nom à ce truc-là. Donc du coup, j'ai décidé de l'appeler le plébéisme, en fait. Plébéisme, c'est la plèbe, le peuple, avec cette volonté de proposer, on va dire, quelque chose qui soit à la fois un outil, d'un point de vue philosophique, pour trouver des réponses, et également une organisation, une forme d'organisation sociale. Voilà. J'ai essayé de le construire un petit peu de cette manière-là, un petit peu comme peut l'être le matérialisme dialectique. Le plébéisme est aussi un outil qui serait une forme de matérialisme dialectique, mais appliqué. là où le matérialisme dialectique n'est pas appliqué, puisque si les gens qui faisaient du matérialisme dialectique l'appliquaient aujourd'hui, ils se rendraient compte que la doctrine qu'ils utilisent, elle est peut-être adaptée dans des pays où règne le capitalisme et plus le consumérisme. Voilà. Alors du coup, pour le résumé, je crois que c'était ça la question.
Ouais, c'était voilà. Ça. C'était résumé ce que tu mettais derrière plébéisme.
Voilà, c'est donc c'est un outil philosophique pour trouver, on va dire, des réponses sur la manière d'organiser une société qui répondrait à des critères de disparition de classe sociale, sans inégalité, sans discrimination, sans propriété privée.
Et de l'internationalisme, tu disais aussi.
Oui, exactement. À partir du moment où il y a un dépérissement de l'État, de toute manière, on sombre, dans le bon sens du terme, dans de l'internationalisme.
On plonge
parce qu'il n'y a pas de notion de nation ni quoi que ce soit. Donc c'est aussi un internationalisme, oui, complètement.
Ben voilà, ça rassurera les gens qui ne savaient pas ce que tu mettais derrière et qui avaient l'impression que tu récupérais des idées plutôt de l'autre côté de la sphère.
Ah non, non. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, par exemple, pour le plébé, par exemple, le communisme, d'aujourd'hui, pas le communisme authentique, le socialisme est plus proche de l'extrême droite que le plébéisme. Ouais. Puisqu'ils ont des points communs que nous n'avons pas, nous, au plébéisme, avec eux. Par exemple, ils sont pour la propriété privée, ils sont pour une forme de nationalisme. Les inégalités, ils sont à peu près pour, il faut juste les réduire.
La phrase terrible, c'est de dire de réduire les inégalités et pas les détruire.
Bah, c'était, par exemple, j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui disait « Vous voulez les pauvres secourus, je veux la misère abolie. » Le plébéisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent mettre des rustines parce que c'est bien, c'est cool, mais que pour les périodes électorales. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui veulent véritablement réduire les inégalités, arrêter l'exploitation de l'homme par l'homme, sans monnaie qui deviendrait son propre objet. Enfin, voilà. Après, dans le plébéisme, c'est pour ça que je dis que c'est aussi un outil, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il ne faut pas attendre du plébéisme des réponses. C'est un projet, entre guillemets, de vie avec ceux qui voudraient le partager. Voilà.
Et en auto-organisation.
En auto-organisation, complètement. Ouais. La question, en fait, que moi je me posais aux gens, c'est pas d'où est-ce que tu viens. On s'en fout d'où tu viens. C'est où est-ce que tu vas. Et est-ce que tu veux aller avec nous. Est-ce qu'on va faire un bout de chemin ensemble. C'est finalement ce qu'on fait dans une histoire amoureuse. On ne demande pas le CV de la personne. Le truc, c'est est-ce que tu veux venir avec moi ou est-ce que tu veux qu'on fasse du chemin ensemble ou pas. Et les gens se soucient toujours d'où tu viens. C'est pour ça que les réfugiés, on les aime pas. On leur pose pas la question de ce qu'ils veulent faire. Mmh. On leur dit, putain, non, merde, tu viens d'un endroit où on veut pas que tu... Enfin, voilà, qu'on aime pas. Parce que tu vas venir nous attaquer, puis tu vas voler nos poules ou je sais pas trop quoi.
Les fantasmes qu'on colle sur les dos des gens.
La question, c'est, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est la question que moi je souhaite poser aux gens dans le cadre du plébiscite, mais depuis de tout dans la vie. C'est voilà, est-ce que tu veux qu'on fasse, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble, est-ce que tu veux qu'on fasse des choses ensemble, et d'où tout ce que tu viens, on s'en fout à peu près, quoi.
Ouais.
Je crois qu'il est convaincu, en fait.
Oui. Pendant la prépa aussi, on discutait aussi de cette notion de rupture, en fait, avec parce que justement on était, alors, parce que je vais essayer de resituer un petit peu peut-être de manière assez courte. Moi, je disais justement que dans ce que toi tu appelles le plébéisme, je sais pas si tu mérisme derrière, mais moi j'y voyais beaucoup d'anarchie, effectivement.
Oui.
Et effectivement il y avait cette notion, tu disais, oui, mais sauf que l'anarchisme, en fait, il a été plutôt défaussé, enfin un peu malmené, on va dire, par certains qui se penseraient ou qui se disent anarchistes. Et par contre, derrière, tu disais, parce qu'il faudrait qu'on revienne à certaines, justement, à cette pratique de la rupture,
oui,
qui passait aussi par ce refus du vote, par exemple.
Complètement.
Et que je trouvais que c'était intéressant, enfin, et qui, enfin, moi, je trouve, ça fait encore un point avec l'anarchie. Enfin, bon.
Mais l'anarchie, c'est très, très intéressant, et il y a énormément de courants dans l'anarchie. Il y a autant de courants dans l'anarchie que dans, on va dire, les idéologies de classe. Dans les idéologies de classe, c'est du socialisme actuel au fascisme. Ce sont des idéologies de classe, voilà. Donc avec, comme on disait, ceux qui veulent réduire un petit peu les inégalités, et puis à l'extrême droite, ceux qui veulent les accentuer. Donc dans l'anarchie, les choses très 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 bien. Par contre, quand on est face à, on va dire, un camp, qui est le camp, on va dire, des inégalités et puis de la société de classe, qui est aussi puissant, je pense qu'il faut dire comme Margaret Thatcher, enough is enough.
Alors là, si t'es Thatcher ce soir, je m'y attendais pas.
Non, mais justement, tu vois, on en parlait.
C'est un joli contre-pied.
Voilà, et puis les gens d'extrême droite qui citent toujours Marx ou qui vont citer Rousseau et tout, tu dis putain, là, franchement,
alors,
les gars, quoi.
À notre tour, volons-leur leurs idoles.
Enough is enough. Donc, stop, ça suffit, quoi, en fait. Et il y a quelque chose qui est, on va dire, la doctrine même des idéologies de classe, c'est la collaboration de classe. D'un côté, il y avait la lutte de classe, de l'autre côté, il y a la collaboration de classe. Eh bien, il ne faut pas collaborer. Il ne faut pas collaborer, tout en restant dans l'ordre de la légalité. Voilà. Pour ne pas s'attirer des choses, par exemple, il faut payer ses impôts, etc. En mon sens, hein. Mais il y a des choses sur lesquelles on... Mais de toute façon, sur ce que je vais dire, ils vont bientôt nous empêcher de pouvoir le faire. Le vote, il ne faut pas voter. En tout cas, si vous voulez un meilleur monde... Arrêtez de voter.
Et c'est pour ça qu'à l'extrême gauche, on nous propose en ce moment le vote obligatoire.
Exactement.
Sans ce qu'on aille quand
en
même
fait,
voter, faut pas déconner.
En fait, c'est tous ces points qui sont centraux, qui sont dangereux pour le pouvoir, pour l'État, eh bien, on nous les enlèvera. Donc, la consommation, c'est trop important pour eux, donc le boycott est interdit. Le vote est trop important parce qu'en plus, il faut qu'on les adoube pour leur donner leur privilège. Donc, ils nous obligeront à voter. Mais il y a des choses qui... Voilà, en mon sens, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut pas... Pour moi, il ne faut pas voter, il ne faut pas collaborer. Je trouve ça assez hallucinant quand même qu'il y ait ces cérémonies de remise de privilèges. Tu vois, c'est tout le temps, tiens, toi tu vas avoir des privilèges pendant 5 ans, machin truc, puis on sait tous pertinemment qu'ils volent. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand, dans toutes ces périodes électorales, il se passe un petit peu ce qui se passe quand on regarde un film, ce qu'on appelle la suspension volontaire d'incrédulité. Donc quand on regarde un film, on se dit pas mais non King Kong il n'existe pas, donc on accepte le truc.
On se le dit rarement.
Voilà, on regarde le truc. Eh bien franchement si on réfléchit à la chose,
on fait pareil en politique.
Mais on sait tous qu'ils se foutent de notre gueule. Ils mentent tous. Quand ils disent un truc, on sait très bien qu'ils pensent à moitié le contraire. C'est une forme de théâtre, de spectacle comme disait Debord, avec des spectateurs dont on a besoin d'avoir l'action qui constitue, on va dire, à la légitimité du spectacle, avec ce qu'ils appellent la démocratie, où on met un truc dans l'urne et puis tu es un bon citoyen. Et il y a vraiment ce truc, cette suspension volontaire d'incrédulité. Je me dis, mais qui y croit ? Qui y croit, franchement ? Mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, tous ces groupuscules de partis qui se battent un petit peu entre eux, comme à l'époque féodale.
Oui, c'est ça.
À l'époque féodale,
chacun sa bannière.
Ouais, ils étaient tous du même camp, c'est-à-dire le camp de la classe nobiliaire, et puis ils se tapaient dessus. Parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais regarde, il est ennemi avec lui, etc. » Donc, ils pensent truc. Je dis « Oui, mais ils s'amusent. Enfin, ils se font leur truc. Bon, c'est un peu violent de temps en temps, en politique, etc. Mais ils se tapent dessus comme à l'époque de l'Ancien Régime. La France se tapait dessus avec l'Angleterre, machin. Mais par contre, quand Napoléon est arrivé, un peu avant, quand il y a eu la Révolution, ben, ils se sont tous mis d'accord pour taper sur la France. Mmh. » Genre, non, non, en plus, ils ont décapité le roi ils ne manqueraient pas que ça se propage à d'autres pays. Donc, après, tous les pays aux alentours se sont mis à taper sur la France et puis ça a provoqué l'avènement de Napoléon. Mais oui, la stratégie de rupture, c'est non, stop, s'organiser, toujours dans le cadre de la légalité, pour éviter d'aller en prison, parce que ça, c'est pas rigolo, mais essayer de s'organiser vraiment et se dire, tiens, qu'est-ce que l'on peut faire, nous ? Et quand on me pose la question, souvent, oui, mais on peut changer les choses, etc. Et tout. Je dis, si tu veux être utile, si tu veux changer les choses, va aider les gens. T'as besoin de l'État pour aider les gens. On n'a pas besoin de l'État, en fait. L'État, il a besoin de nous pour le valider. Mais si le but, si tu votes pour parce que tu veux octroyer des privilèges à certains, je dis, ok, fais. Par contre, si tu votes parce que tu crois que c'est une bonne chose d'un point de vue civique, que le monde sera meilleur parce que tu votes pour des gens, eh ben, tu te trompes. Si tu veux aider les gens, t'as pas besoin de l'État. Comme si Marine Le Pen arrive au second tour ou je ne sais trop quoi, je continuerai à dire, ne votez pas. Si elle arrive au pouvoir, bon fou, on se démerdera entre nous. C'est-à-dire que on va pas...
Il faudra qu'on s'organise pour
exactement,
y répondre, en fait.
Exactement, exactement.
Mmh, c'est ça.
C'est toujours dans la notion d'auto-organisation.
Ben oui. Ah ouais. De toute manière, il y a des gens qui sont en prison actuellement, il y a des gens qui vivent dans la misère actuellement, ce sera pas pire, ce sera pas mieux.
Alors là, j'ai une petite réflexion comme ça, mais c'est peut-être justement là où la limite de la légalité est toujours aussi en rapport avec qui donne ces règles de la légalité.
Bien sûr.
Donc c'est peut-être que justement, si le pouvoir se durcit
encore
un peu.
Non, mais je dis ça comme ça parce qu'on est à l'antenne. J'aurais certainement un autre discours, voilà.
En off.
Voilà.
Oui, c'est clair. Voilà. Si vous êtes dans la légalité, ne le dites pas, mais faites ce que.
Je pense qu'il faut faire ce qu'il est nécessaire de faire en fonction des valeurs que l'on partage et que l'on
c'est
a.
C'est ça.
Voilà. Mais il est évident que. Si demain, je sais pas, bref, on n'a pas besoin de l'État. Voilà, on n'a pas besoin de l'État.
C'est surtout ça qui est important de retenir.
Oui, oui. Mais l'État, c'est quoi? C'est nous, hein, ni plus ni moins. L'État, c'est notre argent, ouais. C'est les hôpitaux, c'est toutes ces fonctions régaliennes. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est nous? Ce n'est que nous, ni plus ni moins. Donc si, il s'avère que demain il y ait une séquence historique tragique, faut pas oublier qu'en Allemagne, en 33, il y a des gens qui se sont organisés. Donc quand on regarde les films, les Allemands c'est tous des nazis, mais non, c'était pas non, tous des nazis. Donc il y a des gens qui se sont organisés, il s'est passé des choses.
Non mais clairement. Ouais.
Mais je pense que ce chantage, c'est il faut arrêter avec ce chantage en fait. Mm. Il faut n'ayez pas peur. Mm. Faut dire la peur de changer de camp.
Mais n'ayez pas peur, ça a été piqué à Jean-Paul II, c'était bien, ça faisait une deuxième idole à qui on prenait. Allons-y. Après Margaret Thatcher, Jean-Paul II, c'est pas. On se fait une petite pause et on revient pour quelques minutes après.
Ça marche.
Really anybody
Et de retour dans la causerie sur Radio Canu, on vient de s'écouter, un autre titre du groupe Porn qui s'appelle
The Fee.
Yes. Et donc on est toujours en compagnie de Philippe Deschemins, qui est l'auteur du livre Contoyen. Et alors, vu qu'on approche de la fin, etc., c'est aussi l'idée d'évoquer une suite, parce que ça ne s'arrêtera pas juste à l'histoire des Contoyens.
Exactement. Donc, comme je le disais, dans Contoyens, on aperçoit les Protoyens, donc l'autre classe sociale, qui on va dire la classe antagoniste, ceux qui travaillent et qui produisent les biens de consommation dont eux jouissent toute la journée. Et il y a une classe dominante qui a orchestré tout ça. Donc, je suis en train de travailler sur un deuxième volet qui se passe chronologiquement avant et qui suivra, on va dire, ce qu'on appelle les autres, en fait, ceux qui ont créé cet univers. Et il y aura également un troisième tome qui sera consacré, lui, aux Protoyens.
Et ben voilà. Et donc, du coup, ça sera toujours édité au Cercle de la Boétie ?
Je pense. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas été approché par de grandes maisons d'édition. Donc, moi, ça me va très, très bien. Et oui, théoriquement, ça restera là.
Ok. Voilà. Et on peut te retrouver. Enfin, on peut retrouver le livre, en tout cas. Partout, je pense.
Oui, on peut le trouver sur le net via les éditions du Cercle de la Poésie, sur Amazon également. Il y a des gens qui le vendent d'occasion, donc voilà, c'est bien, ça permet.
Prenez les d'occasion.
Voilà, non, mais c'est bien, prendre d'occasion. Sinon, il y a la maison d'édition qui a également une boutique. Donc voilà. Puis après, il y a quelques libraires qui l'avaient commandé, parce qu'on passe pas par un diffuseur traditionnel. Donc il y a quelques librairies qui l'avaient demandé, donc voilà, où votre libraire peut le commander à la maison d'édition directement. Donc voilà.
Là, vous avez toutes les infos pour vous procurer Contoyen et procurez-le vous. Voilà.
Tout à fait.
Dernière info qui te concernant, il paraît qu'en plus, parce que tu fais pas assez de choses, il paraît que tu interviens de temps en temps à l'Unifpop.
Oui,
alors ça va être... où, quand, comment ?
Alors ça va être la première année, en fait, parce que c'est la première année de l'Université populaire du pays viennois, et je vais animer un cycle dédié aux philosophes de l'émancipation en janvier. Donc il y aura deux ou trois sessions, si mes souvenirs sont bons. Et en mars, je vais intervenir autour du sujet du vote. Et ce sera en plein d'actualité. Donc toujours avec derrière, on va dire, une idée plébéiste de la chose. Et nous avons, par rapport au vote, très influencé par Simone Veil, par exemple, ses travaux sur les partis politiques, etc.
Donc, voilà. La philosophe, pas la femme politique.
Oui, la philosophe, Simone Veil, qui était une grande, grande dame.
Juste, tu sais où c'est ?
Oui, alors ce sera à Vienne en mars, pour le cycle, c'est même au théâtre de Vienne d'ailleurs, je crois, dans l'Isère. Et en janvier, je crois qu'il y a une session à Vienne et une autre session à Chasse-sur-Rhône, je crois. Il faut aller sur le site de l'Université populaire du pays viennois, l'UPOP, et il y a toutes les infos. Ils ont une page Facebook, il y a un site avec tout le calendrier. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants sur beaucoup, beaucoup de thématiques qui vont des thématiques, on va dire, traditionnelles, l'histoire, etc., jusqu'aux sexualités, au genre, l'naturopathie, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà.
Eh ben, merci.
Oui, d'ailleurs, la rigueur, je conseille aussi aux gens sur Lyon, etc., de regarder, puisqu'il y a aussi une université populaire sur Lyon.
Oui.
Et c'est intéressant.
L'Unipop.
L'Unipop, voilà. Ouais. Et c'est intéressant, en fait, de pouvoir se réapproprier certains sujets, etc., de s'interroger, etc., etc. Voilà.
Complètement.
Et ben, on va finir par des brèves.
Un petit agenda avant de se quitter définitivement.
Définitivement.
Oui.
Non, pour ce soir,
on se reverra.
Je plaisantais. Un peu d'humour, mince.
Ça commence demain soir, alors, avec les permanences juridiques d'aide aux sans-papiers.
Tu me la piques, celle-là, ok.
Oh, on partage. Prends ça comme du partage, je te vole rien. Pardon. Attends, j'en étais où ? Oui, donc.
Permanence d'aide.
Juridique au sans-papiers, ça se passe toujours à la Lutine de 18h30 à 20h. C'est toujours au 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement. Ensuite, c'est moi toujours, je crois bien, qui est la
jeudi. News.
Ouais, c'est ça. C'est jeudi 3 novembre, donc. C'est dans le cadre du mois libertaire. Le groupe Graines d'Anarch, qui est de la Fédération anarchiste, organise une rencontre avec Mathieu Rabe, qui est l'auteur de d'un livre qui s'appelle Les Communards à Lyon et qui retrace leur histoire, leur venue, la répression, etc., etc. Et ça se passera donc au bar Les Clameurs, ça c'est au 23 rue d'Aguesseau dans le 7e et ça commence à 18h30. Voilà.
Et moi je continue avec le samedi 5 novembre. Alors il y a Acrimed. Alors c'est l'association Critique Média, pour ceux qui ne connaissent pas, qui organise à la MJC du Vieux-Lyon une journée sur la critique des médias dans tous ses états. C'est de 14h à 22h à la MJC du Vieux-Lyon. Je ne vais pas vous donner tout le programme parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous invite à aller sur le site de la MJC, il y est, et c'est très détaillé si vous ne voulez pas participer à tout. Il y a des conférences, il y a des gens qui vont intervenir, voilà. Et le même jour, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça, à 16h, à La Plume Noire, il y a un débat, publicité sexiste, vecteur d'oppression. Voilà, alors La Plume Noire, c'est rue...
Oh, j'ai perdu. Diderot.
Diderot, voilà.
Sur les pentes de la Croix-Rousse, et c'est aussi une activité qui a lieu, en tout cas, oui. Une rencontre qui a lieu dans le cadre du Mois Libertaire,
voilà.
Qui a commencé sur Lyon. Voilà.
Et donc, j'ai oublié, j'ai dit que c'était à 16h.
Oui. Oui, tu l'as dit.
Pardon.
Mais tu peux le redire.
Ouais, non, c'est bon. C'est du coup, j'avais oublié. Donc, voilà. Et ben voilà pour le petit agenda de ce soir. Et pour le reste, allez vous balader à droite, à gauche, sur les murs de Lyon, sur Internet, pour trouver des trucs.
C'est ça. Voilà, voilà. Et ben on va se laisser là. On remercie encore une fois Philippe Deschemins.
Ben merci pour l'invitation. C'était très agréable.
Ben merci. Merci d'être venu. Parce qu'on invite, des fois les gens viennent pas, tu sais. On est content quand ils répondent oui.
Merci. Merci à vous. Eh bien, on vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour tout, et puis bonne nuit aussi.
Oui, et on se quitte avec un titre de porn.
Oui.
Et c'est lequel?
Ça doit être Soft Machine, Porn Machine, je crois.
Soft Machine, Porn Machine.
Exactement.
Eh bien, allez, on vous laisse écouter ça. À la semaine prochaine.
À plus, ciao.
Ciao.
Bone machine.